On va écouter et entendre Arnaud de Mesama. Arnaud de Mesama est un producteur et un réalisateur de films documentaires, en particulier dans le champ de la psychanalyse. Il a réalisé, il y a quelques années de cela, avec Elisabeth Coronel, une série de 3 films qui étaient consacrés à Françoise Dolto. Et Arnaud de Mesama vient de terminer un ensemble de 3 autres films documentaires intitulés « Françoise Dolto parle ». Et ces documentaires ont été très récemment diffusés à la télévision. Et je crois qu'après quelques propos liminaires, on va regarder une partie du film, ou d'un des films, en tout cas, M. Mesama.
Alors, nous allons voir et entendre Françoise Dolto, en effet, non pas dans ses films, mais dans des extraits de ce qu'il est convenu maintenant d'appeler les archives canadiennes. Donc je voudrais simplement et rapidement donner quelques indications qui aident à regarder ces documents. Françoise Dolto est invitée à Montréal en septembre 1983. C'est donc il y a 25 ans, et Françoise Dolto a 75 ans. Elle est invitée par le service de psychologie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui est un des grands hôpitaux de Montréal, pour une série de conférences sur des thèmes à la fois très généralistes, comme beaucoup de choses sur la prévention, mais aussi pour parler sur des questions plus précises, plus techniques, comme la clinique des enfants psychotiques, dont on verra tout à l'heure, à l'instant, je dirais, des extraits. Ces conférences ont donc été filmées. Elles représentent à peu près une vingtaine d'heures d'archives. Et elles nous sont parvenues il y a une quinzaine d'années seulement. Elles avaient, cela dit, au préalable donné lieu à ces livres de Françoise Dolto, qui s'appelle « Les dialogues québécois », paru en 87 au Seuil. Alors c'est un corpus exceptionnel finalement, ces archives, à la fois par l'étendue, par sa durée, par la variété des thématiques abordées, mais aussi parce qu'il s'est passé quelque chose au Canada qui donne à ces documents une singularité. Françoise Dolto s'y montre en effet d'une vivacité, d'une audace dans le ton qu'on ne retrouve dans aucun autre document audiovisuel que l'on a d'elle. Alors que s'est-il passé au Canada ? Eh bien, Françoise Dolto a découvert une situation à laquelle elle ne s'attendait pas et qui l'a mise, sinon en colère, du moins a suscité des réactions que l'on sent dans le ton quand on le retrouve dans ses archives. Françoise Dolto découvrait en effet que la pratique canadienne était totalement empreinte d'une psychologie du bon sentiment, d'une idéologie de l'adaptation sociale, qui était à des années-lumière d'une véritable pratique de la psychanalyse. Quelque temps après son retour, elle en parle avec son ami François Peraldi. Peraldi, c'est ce très important et brillant psychanalyste lacanien qui est mort prématurément et qui était parti au Canada et qui a beaucoup introduit la pensée de Lacan. Et j'ai retrouvé des extraits d'un dialogue que Françoise Dolto a avec Peraldi, qui a été publié dans une revue canadienne qui s'appelle Frayage en 1984. Je cite quelques extraits de ce dialogue. Peraldi. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus au Canada ? Françoise Dolto. J'ai admiré ce qui se faisait sur le plan interrelationnel conscient. La prise en charge et l'accueil des enfants dans les hôpitaux qui est efficace et qui permet de ne pas aggraver l'état des enfants, ce qui n'est pas toujours le cas chez nous, dit-elle. Mais j'ai été absolument effarée de ce qu'on appelle les thérapies au Canada. C'est comme si les adultes soignants croyaient à la pensée magique. On suggestionne. Peraldi, c'est tout à fait ça. C'est basé sur cette espèce de philosophie des thérapies. Tu es bon, je suis bon, nous sommes tous bons. Sur cette espèce de piège de la pensée universalisée, de la bonté universalisée. Françoise Dolto, il y a tout le temps ce frottis-frottas gentil. Ils prennent ça pour de la rencontre. En fait, personne ne parle vrai et profond. J'ai vu des gens de très bonne volonté s'entre-nourrissonner, mais qui ne parlaient pas vrai, qui ne soupçonnaient même pas l'intensité du désir chez l'être humain, ni chez eux, ni chez les enfants qui sont là, ou chez leurs parents, qu'ils instruisent de comportements éducatifs. Plus loin, elle dit « La castration est un mot qu'on ne connaît pas à Montréal. Pour eux, les mamans castratrices, ce sont des méchantes. Alors, qu'est-ce qu'on ferait dans le monde si les mamans n'étaient pas castratrices ?» Je ne poursuis pas plus longtemps ce dialogue. Si on a le temps, demain, j'en livrerai quelques extraits, autres. Mais je voulais donc préciser tout cela parce que ça permet de comprendre les caractéristiques de ces archives, surtout quand on les regarde comme on va le faire un peu à l'état brut, même si j'ai fait quelques sélections. Nous pouvons voir en direct comment Françoise Dolto avait réagi et comment, si elle n'apportait pas la peste en Amérique, du moins apportait-elle une écoute de l'inconscient, une éthique du sujet, une ouverture au symbolique. Donc il y aura trois sélections que j'ai effectuées en essayant de tenir trois objectifs. Le premier, c'est d'essayer de montrer des extraits inédits par rapport à ce que j'ai pu déjà montrer dans des films ou ce que nous avions déjà montré dans des précédentes journées. C'est partiellement réussi parce que c'est pas simple de faire cette sélection. Je voulais aussi évidemment que les extraits soient en rapport thématiquement avec les journées. C'est globalement le cas, même si c'est parfois très indirect. Et puis aussi, je crois que c'était important que ces extraits donnent matière à travailler. Ce ne sont pas des extraits faciles. Ils montrent une pensée qui se déploie dans une perspective de pédagogie pour un public qui la surprend et qui la déconcerte. Certains extraits sont donc d'une densité assez grande et somme toute représentatifs des modalités d'expression de la pensée de Françoise Dolto. Parfois des concepts d'une complexité considérable qui se donnent à entendre en une phrase, qui mériterait pourtant un long développement, qu'elle ne fait pas. Elle laissait ses développements à ses futures exégètes. C'était une des multiples façons qu'elle a eue de transmettre la psychanalyse, et c'est bien ce travail-là que ces archives nous permettent d'entreprendre ensemble ici. Je vous remercie.
Moi, ce qui m'intéresse dans les enfants psychotiques, c'est que quand ils entrent dans la psychose, ce qui est vu par nous comme la psychose, c'est qu'ils sont piégés dans quelque chose qui arrive à tous les enfants dans la vie, tous les enfants qui deviennent des êtres normaux, mais qui à un moment donné, pendant une demi-heure, pendant une heure, sont devant un problème qu'ils ne savent pas comment résoudre. Et puis, par bonheur, ils sont sollicités autrement, il n'y a pas eu, ça ne réveille pas chez le père, chez la mère, un croisement, une zone d'ombre chez tous les deux, dans le champ des pulsions en jeu, et alors ils peuvent le dépasser. Et c'est les enfants psychotiques ne dépassent pas quelque chose que traversent tous les enfants normaux à un moment donné, soit dans la vie fœtale, soit dans la vie orale, soit dans la vie anale, c'est-à-dire dans les âges de ce développement, de la dominance de l'érotique orale, de l'érotique anale. Dans mon idée, comment je travaille, l'érotique fœtale est marquée par une éthique humaine qui est l'éthique du vampirisme. Pour bien vivre, si on est un fœtus, l'éthique, le fin du fin de la vertu individuelle, c'est de se gonfler de sang au détriment de ce qu'il y a autour qui a du sang, qui a donc de la vie. Hein, c'est se greffer pour pomper la vie. Ensuite, après la naissance, ce que l'on pompe, c'est l'air. Et vous avez vu hier un monsieur dont l'enfant en naissant lui a pompé l'air. Mais ce monsieur réagissait comme un fœtus par rapport à l'air de son enfant qui lui prenait. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était un puiné, etc. Mais l'éthique du fœtus, c'est le vampirisme. Si le fœtus a bien fini sa vie de fœtus, pour ça il faut que la mère l'ait bien finie, ce qui n'est pas toujours le cas, et le père aussi. Un père ne finit pas sa vie de fœtus de l'enfant, n'accepte pas que l'enfant soit sorti de la vie fœtale quand il est furieux du sexe de l'enfant. Quand il est furieux que l'enfant naisse brun alors qu'il aurait voulu blond ou roux, il aurait voulu brun, il y a une lacune de l'acceptation de la réalité, c'est-à-dire que cet enfant n'est plus un fantasme du père, il est une réalité. Et dans sa réalité, le père ou la mère refuse cette réalité de la castration fœtale de l'enfant. Donc l'enfant est obligé de la refuser en partie, sa castration fœtale, qui est la césure du cordon ombilical, la rupture totale avec le style de vie et le style d'éthique de la vie fœtale. S'il a bien passé l'épreuve de la naissance, ce qui est difficile, nous verrons des cas qui rendent les enfants psychotiques, avec une enclave qui peut se déclarer justement un peu plus tard. Eh bien, s'il a bien passé, qu'est-ce qu'il a comme éthique qui se développe chez lui? Les pulsions orales se développent en étant cannibale. Ce n'est plus. C'est un organisme qui, lui, ne fait que rendre autant d'air qu'il en pompe, c'est-à-dire qu'il est le cordon ombilical de nous tous, c'est d'être tous sur la même atmosphère en en prenant et en en rendant. Nous sommes tous le placenta de tous, c'est ça. Mais il est entré dans une relation sensorielle, auditive, visuelle, tactile, qui lui délimite un sac de peau. Et dans ce sac de peau, il y a des zones érogènes. Et ces zones érogènes sont dominées par le fait que l'éthique orale, c'est de prendre, de happer, de rapter pour se gonfler, et que pour ne pas éclater, ce qui, l'éclatement fait revenir à la vie fœtale dangereuse, la naissance dangereuse, pour ne pas éclater, il faut expulser. Il y a deux pôles. Il y a un pôle oral qui est des pulsions centripètes, de l'extérieur vers l'intérieur, et à l'intérieur du corps, de ce sac, il y a une sortie en bas, s'ils étaient debout, mais en bas par identification aux adultes qui sont debout, il y a l'émission en bas de en Y, puisqu'en haut ce n'est que boire, mais en bas c'est en Y du solide et du liquide. Il y a urine et il y a l'expulsion des fesses, enfin les excréments solides et les excréments liquides, qui forment une image en Y pour l'enfant, et qui n'est pas encore du tout, tout ça n'a rien à voir avec l'érotique, où l'érotique qui est les génitoires qui sont autour de tout ça sont dans l'érectilité tout le temps. L'érectilité, c'est pour l'érotique prendre de l'autre, rejeter de l'autre pour entrer, pour être en échange avec lui sur un plan tout à fait subtil qui n'a rien à voir avec la nourriture, mais qui est autour des moments de nourriture, si la mère ne sait pas que les moments les plus importants pour l'enfant ne sont pas les moments des soins. Nous avons vu notre maison verte, une femme dont l'aîné, très brillant enfant, était un mordeur dangereux. Bon, une puissance, un tamerlan enfant. Il fallait vraiment faire attention. Et moi j'ai compris, je ne sais pas si les autres, mais je crois que nous en avons parlé une fois, la mère du Bordet, une pauvre Haridelle abattue devant cette violence de cet enfant aîné, tout en ouverture, tout en vampirisme du monde entier. Et une merveilleuse créature humaine, mais très difficile à vivre. J'ai compris comment elle l'avait nourri, quand j'ai vu comment elle nourrissait le second. Le second avait plus de chance parce qu'il avait déjà un aîné pour lui qui venait l'arracher à sa mère, le trimballer comme ça partout. Il avait 2 ans et demi. Et c'était un danger public pour son petit frère, mais elle laissait faire comme ça, heureusement. Parce que je ne sais pas si on avait refoulé cette intensité chez l'aîné, ça aurait produit chez les deux enfants une psychose. Bon, eh bien, Voilà, elle nourrissait son bébé en même temps qu'elle le tripotait, elle le pinçotait partout. Et quand elle ne le pinçotait pas, elle tournait son oreille dans la conque de son oreille, comme ça, elle faisait tout le dessin de la conque de l'oreille. Imaginez-vous en train de manger et que sans arrêt, dénudé, parce qu'un bébé est très dénudé, surtout quand sa mère est dénudée aussi, et sans arrêt, elle vous crée des bouches partout. Cette mère leur faisait des bouches partout, puisque partout, au toucher, pendant qu'ils tétaient, elle les cannibalisait. Si bien que ça n'était que vraiment la relation à un être humain, l'amour, c'était du cannibalisme psychique et du cannibalisme physique complètement ensemble. Et pas seulement pour le plaisir, mais pour le besoin. C'était difficile après ça à récupérer pour qu'ils ne deviennent pas psychotiques. Alors c'était un enfant qui pouvait facilement devenir psychotique suivant le milieu et surtout si la mère n'avait pas été tellement masochique qu'elle pouvait tolérer, car aussi, c'est ça, c'est que grâce au masochisme de la mère, l'enfant a pu vivre cette période pour les autres dramatique de son stade oral encore vampirique au stade anal où il était presque urétral à l'âge qu'il était. Eh bien, il était resté vampirique, cannibale, en même temps que percutant, enfonçant tout, il avait toutes les attitudes phalliques de tous les stades, sans castration. Quand nous occupons d'enfants, c'est pour arriver à cela que je vous disais, nous sommes pris entre est-ce qu'il faut tolérer tout, qu'est-ce qu'il faut soigner, avec qui faut-il établir une relation d'éducation, c'est-à-dire de répression, et c'est pas celui qui réprime qui doit s'occuper de l'effet que ça fait cette répression. Donc c'est pas à lui d'être tolérant. C'est pas celui qui est éducateur n'a pas à être tolérant. Mais quand il voit qu'un enfant souffre trop, c'est une autre personne qui va ramasser le souffrant pour lui dire de quoi il souffre, que quelqu'un n'a pas compris, que vraiment c'est un peu fort pour lui, qu'on l'ait empêché de faire ce qu'il voulait. Quand je vous parlais de cette femme, j'ai admiré que cette femme fût à ce point masochiste, secondairement, étant donné qu'elle était tellement sadique sans le savoir dans sa manière de nourrir les enfants. Enfin, la manière, au moment où elle nourrissait les enfants, elle était tellement, elle avait tellement besoin de téter son enfant partout, de le toucher, de le tripoter partout et d'y prendre le plaisir pendant que lui la pompait de son lait, elle le pompait de sa tactilité. Mais après, elle tolérait, en étant très débordée, en étant déprimée, très dépressive, n'empêche que elle tolérait la violence de cet enfant aîné. Et à partir du moment où la parole a pu arriver chez cet enfant, il s'est calmé, car ces éducations qui peuvent promettre une psychose, qui peuvent présager une psychose, je crois que quand il rencontre des psychanalystes, et cet enfant-là aurait profité d'avoir une psychanalyse, il n'a eu que la Maison Verte, mais peuvent être tout à fait sortis de leur psychose, à condition qu'on puisse leur parler leur mère et que leur mère puisse parler à l'enfant et l'enfant parler à la mère. Il se trouve que tu as une mère qui faisait comme ça et tu croyais que c'était bien parce qu'elle avait besoin de te toucher, tu croyais que c'était bien pendant qu'elle te têtait, que tu croyais que c'était bien, qu'il fallait que tout le monde, quand il aimait les autres, il a besoin d'aller les mordre et de les manger, etc. C'est cette compréhension-là, bien sûr. Je vous donne un petit exemple. Je sens que c'est tout à fait inférieur à ce que je voudrais vous communiquer. Mais je voulais vous dire que ce sont des choses qui sont minimes chez certains, qui deviennent gigantesques à force de ne pas avoir été dites de la relation mère-enfant qui a perverti. Les psychotiques sont des enfants pervertis par une relation innocemment perverse de leurs parents. Mais qu'il faut que ça soit dit. Ils n'ont pas la castration, parce que les parents n'ont pas accepté la castration d'avoir un enfant qui n'est plus dans leur ventre, qui n'est plus leur chose, qui n'est plus leur objet, et qui se rattrape chaque fois qu'ils peuvent pour en faire leur objet. C'est dangereux de prendre un enfant qui est en situation édipienne, allant devenant édipien, et de se superposer à une personne qu'il voit seule, en seul à seul. parce qu'il revit avec nous du fusionnel de sa mère, il revit de l'oral, il revit de l'anal, qui n'a rien à faire à de revivre avec nous. Il a à le vivre avec sa mère et que nous lui disions, nous interprétions ce qui se passe avec de l'enfant, la mère, de ce que la mère n'a pas liquidé de son enfant, c'est qu'elle aide son enfant à ne pas liquider à son niveau, ou le père, ou la mère, ou le père. C'est ça que j'aime beaucoup avec les enfants psychotiques et pour les personnes dont je fais le contrôle aussi, qu'alternativement, ça soit le père et la mère qui soient présents à la séance. Et quand les pères ne peuvent pas rester, car il y en a, c'est pas qu'ils se mettent à rougir, à étouffer, à... Les séances, on voit ça dans les séances à l'hôpital, j'ai beaucoup vu ça, ils peuvent pas. Et ton père a l'air de souffrir de ce qui se passe, vous souffrez, monsieur, parce que je leur fais signe de se taire. Hein? Si l'enfant ne va pas vers eux, ils sont témoins, ils sont présents. C'est tout. Mais alors, ils souffrent. Vous avez peut-être quelque chose à dire. Alors, non vraiment, mais il fait chaud ici, j'ai tout fait, est-ce que je peux m'en aller? Permets-tu à ton père de s'en aller? Alors, il le regarde. Je fais signe qu'il peut s'en aller, l'enfant reste. Ou bien c'est l'enfant qui met les personnes à la porte, ou c'est la personne qui n'en peut plus de rester et qui s'en va. Ça, c'est ça qui arrive quand l'enfant reste seul. Mais ça s'est fait progressivement, il ne faut pas les séparer quand ils ont besoin encore d'être ensemble. Alors, je ne sais pas comment vous dire, mais je ne vois pas qu'on puisse servir de substitut de parents édipiens avant que l'Édipe soit résolue. On ne peut servir que de substitut de mère sein ou de mère bras. L'enfant vient vers vous pour que vous fassiez quelque chose. Très souvent, hein, l'enfant vient vers vous, il vous fait un geste pour que vous fassiez quelque chose. Il faut lui dire en mots qu'il voudrait que vous le fassiez, mais il ne faut surtout pas le faire. Sans ça, vous jouez le rôle de la mère qui fait ce qu'il veut quand il vous demande quelque chose. Hein. Alors, vous lui dites, tu voudrais que je raccroche, je sais pas, une baladeuse à un camion. Tu voudrais que je te montre comme ta maman te fait quand tu ne sais pas, c'est elle qui prend ses mains pour te faire les choses que tes mains devraient trouver à faire. Mais tu es bien assez malin. Tu es bien assez malin pour le faire toi-même. Et alors quelquefois on peut dire, tu voudrais que je te montre comment on ferait? C'est ton papa qui te montrerait bien. Ah ben puisque ton papa n'est pas là aujourd'hui, je vais bien te montrer à la place de ton papa. Et regarde, tu vois, la partie femelle et la partie mâle se rencontrent. On dit ces choses-là, mâle et femelle, et puis on le redéfait, on le leur rend. Alors furieux, ils sont furieux, veulent qu'on le refasse. Non, je t'ai montré. Et tu as des mains aussi habiles que les miennes, et bientôt aussi habiles que celles de ton père. Tout est père, mère, nous sommes là pour que par rapport au père et à la mère, ils se rencontrent en eux, mais pas nous les rencontrer à la place sans ça. On ne peut être le substitut des parents que très plus tard, dans l'analyse d'adulte, où c'est un résidu des pulsions du passé, dans une relation du passé qui se vit sur l'analyse, mais c'est jamais du vrai. Il ne faut pas jouer la réalité. Et puis ça se termine parce que les gens vous payent, ils n'ont pas payé papa-maman. Mais là, c'est pour ça qu'il faut que l'enfant paye. C'est comme les rythmes des séances, c'est à la demande. Toujours. Et c'est peu à peu que la demande devient généralement relativement fréquente, mais quelquefois avec des arrêts. Alors la seule chose, c'est si vous revenez, j'aurai peut-être pris quelqu'un à cette heure-là, il faudra peut-être que vous continuiez avec quelqu'un d'autre, ou à d'autres heures avec moi, c'est tout. Et si vous voulez garder vos heures, vous payez. Mais quand s'ils payent, vous ne prenez personne à la place. Et ça, c'est chez vous, c'est très important. De même dans les centres, quand les enfants ont une heure de rendez-vous avec le psychanalyste, il ne faut jamais prendre un autre enfant parce qu'ils ne sont pas venus. C'est-à-dire, on les voit qui rôdent autour, ils n'entrent pas à leur séance, ils rôdent autour, et l'autre qui dit, mais moi et moi non, toi c'était à 5h30, Pierre c'était à 5h, c'est son heure jusqu'à 5h30. Et c'est fantastique ce que ça joue chez cet enfant, 3, 4, 5 semaines après, où il a fait poireauter le thérapeute qui était venu pour lui dans une institution et qui n'y est pas allé, et qu'il sait par les autres que... un autre n'a pas pris sa place. C'est ça qui est à analyser, c'est qu'il voulait faire piéger l'analyste à ce qu'il rejoue ce qu'il attendait toujours, c'est que ou il avait pris la place d'un autre, ou un autre avait pris sa place dans la fratrie. Là, il faut être très, très strict dans les règles. Le paiement, le temps qui est imparti pour cet enfant. Quand un père vient pour parler de lui à l'occasion du traitement de son enfant, je lui demande, aujourd'hui, vous croyez que vous êtes venu pour votre enfant ou pour vous? Ceci, l'anamnèse du début, c'est pour leur enfant qui viennent, je les écoute pour leur enfant. Mais quand au cours du traitement, les parents veulent arrêter le traitement de leur enfant, de fait, ils l'arrêtent puisqu'ils prennent sa place. Ils viennent pour vous dire, on va arrêter le traitement, puis ils se mettent à parler d'eux. Et c'est vraiment formidable pour l'enfant, c'est grâce à l'enfant qu'ils sont venus pour parler d'eux. Et c'est là, ils prennent la place de personne encore, ils sont venus. Et ils ont eux pris la place parce qu'ils avaient besoin de parler. Il y a que leur dire, est-ce que vous croyez aujourd'hui, est-ce que vous êtes venu pour votre enfant ou pour vous? C'est pour moi. Payez-moi les 50 centimes que je demande à votre enfant. Et que tout à l'heure, nous allons nous excuser que vous avez pris son temps, que j'ai accepté de vous recevoir et pris son temps, mais il va voir que vous avez travaillé pour vous. Et le père est un peu gêné, mais viens, tu vois, le temps est passé, j'ai juste 5 minutes pour toi, parce que ton père a parlé, mais c'était très important, c'est grâce à toi que ton père a pu parler de son enfance, de ses difficultés, et tu vois, il a payé pour lui. S'il avait parlé de toi, je te dirais tout ce qu'il a dit, mais comme il a parlé de lui, ça je ne le te dirai pas plus que je ne lui dis à toi ce que toi tu me dis. Vous voyez ? Alors là, vous jouez sur le velours, parce que le père et la mère ne feront pas ça, plus, ils font ça deux... Jamais plus de 3 fois. Une deuxième fois, 3 semaines après, il dit, j'ai encore à vous dire, ou je lui envoie une lettre qui est la fin de ce qu'il n'avait pas dit. Et puis, et s'ils reviennent, vous voyez que vous avez besoin de faire une thérapie. Peut-être même que quand vous en ferez une pour vous, votre enfant guérira beaucoup plus vite. Voilà une adresse, ça ne peut pas être moi. Ah, mais alors ce sera personne si ce n'est pas vous. Bon, ça ne sera personne, mais vous avez tort. Car vous en avez besoin, et si vous veniez à la place de votre enfant, c'est comme si vous aviez voulu venir à la place d'un autre déjà quand vous étiez jeune. Enfin, ça serait une chose à comprendre, pourquoi vous voulez prendre la place de votre enfant. Je ne sais pas, mais c'est pas moi qui peux vous l'expliquer. Tout ça, c'est à comprendre. Plus généralement, ils acceptent très bien d'aller chez quelqu'un. Alors, ils disent, ah ben, si c'est pas... Il y en a qui vous disent, si c'est pas vous, alors pas une femme. Ou alors, je veux absolument aller à une femme. Vous avez peur d'un homme? Non, mais les hommes, ça ne comprend pas. Alors, ils vous révèlent qu'ils avaient déjà vu un psychanalyste à un moment de leur vie, ils n'en avaient jamais parlé, et que c'était un homme, et que pour toujours, ils étaient négatifs à cause de ça, ou des choses pareilles. Alors là, c'est un travail qu'on peut faire. C'est comme ça qu'on peut voir les parents psychotiques. Mais je ne vois pas comment on peut prendre des enfants avant 6 ou 7 ans d'âge civil sans que les parents soient présents au traitement. Tout le temps que l'enfant le désire. Car ils sont encore inclus dans les parents du fait que la castration édipienne n'est pas faite. Ils sont encore dans le désir homosexuel du père, hétérosexuel de la mère, premier désir, premier, qui fait partie de leur narcissisme. Le père en eux-mêmes, il est encore extérieur. La mère en eux-mêmes, elle est encore extérieure. Ils ne savent pas s'auto-materner, ils ne savent pas s'auto-paterner, c'est pour ça qu'ils sont psychotiques. Un être humain pas psychotique, névrosé, sait s'auto-materner et sait s'auto-paterner. Il sait ce qui est défendu et pas défendu, il sait pour le paternant, n'est-ce pas, la conduite, et il sait ce qui est malsain ou sain pour lui. Il ne va pas boire de la mort au rat, si, pour se tuer, mais il ne va pas le faire par inadvertance. Il ne va pas mourir de faim. S'il y a de quoi manger autour de lui, il mangera, il sait s'auto-materner, d'une façon. C'est ça qui est des n'êtres pas psychotiques. Je ne connais pas d'autre définition que ça. Savoir s'auto-materner dans toute situation, et savoir s'auto-paterner dans toute situation, eh bien, ça, c'est avoir l'âge de la pré-génitalité juste. Là, et être au niveau de savoir si on s'auto-materne en tant que garçon, en tant que fille, on s'auto-materne en tant que chiot, peut-être. Alors là, on va entrer dans une névrose, mais ce serait une névrose édipienne. Si on ne sait pas quel sexe on a, mais on est allé jusqu'à savoir manger sans mourir, savoir se coucher sans que personne vous couche, savoir se vêtir assez pour ne pas avoir froid, même si on met son pull à l'envers, ça n'a aucune importance, mais on sait s'auto-materner, pas comme ça devrait, mais enfin on sait le faire. Et on sait aussi s'auto-paterner, c'est-à-dire qu'on sait ne pas se faire écraser dans la rue, on sait se conduire, étant donné la conduite des autres. Il y a une relative conduite par rapport à la conduite d'autrui.